9h dans le bureau de Par Jupiter.
Allez les enfants, installez-vous.
Madame, on est prêts.
Non, on n'est jamais assez prêts. Demandez ça à Anne Hidalgo, vous verrez.
Oui. Madame, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans Par Jupiclass?
Eh bien aujourd'hui, très facile, ça va aller vite. Ouais. Le second tour.
C'est pas compliqué. On met un bulletin dans l'urne et on râle pendant les 5 années qui suivent.
Alors ça c'est pas complètement faux.
Ça semble trop facile, c'est ça.
Non, je pense qu'on pourrait expliquer de manière un peu plus fine.
Mais c'est nul cette élection. Voilà. Ça veut rien dire. C'est pas démocratique.
Voilà. Mais on commence à affiner et il y a d'autres points de vue.
Mais
ensuite.
Pourquoi en fait il y a un second tour?
C'est vrai, c'est pourquoi deux et pas trois? Et pourquoi au second tour ils sont deux candidats et pas trois candidats?
Ça c'est les règles de la 5ème République. C'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Si l'un des candidats n'obtient pas la majorité absolue, il y a un second tour.
Madame, pourquoi le vote il n'est pas obligatoire?
Donc je disais, la constitution de la 5ème République, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Madame, et si on veut aucun des deux candidats?
Mais oui, c'est nul cette élection en fait.
Continue la leçon, ok? Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct.
Direct, du tout.
Guillaume, ce soir c'est une tradition, il y a le débat d'entre deux tours.
Mais pourquoi ils font pas un autre sport pour se départager?
Je ne comprends pas.
Les Français, ils aiment bien la confrontation, alors pourquoi pas faire, je sais pas, un Monopoly, du ping-pong, des fléchettes ou
Me fatiguez, hein. En fait, ce sujet est vraiment très complexe. Alors, on va parler de quelque chose de beaucoup plus facile, si vous permettez. Par exemple, les différentes techniques de fission de l'atome pour mettre en perspective les risques de l'énergie nucléaire.
On va faire plutôt le deuxième tour. Voilà. On a bien réfléchi.
Bien sûr. Bonjour la France Inter et bienvenue au Conseil supérieur de la Gaudriole, dont voici la devise du jour: que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent et surtout pour les 3 ans qui nous restent à vivre avant la fin du monde. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Vous poursuivez la lecture d'un album de Mafalda, l'héroïne de Kino, l'auteur argentin, qui dessine une petite fille bien peignée pour faire passer des idées politiques plus hirsutes.
C'est normal que les jeunes ils se conduisent comme ça, avec les libertés qu'on leur donne. Je vous foutrais ça dans l'armée, moi.
Sans transition, bien sûr, avec l'armée. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Vous orientez énormément cette antenne, sachez-le.
Ah bon ?
De manière tellement décomplexée que vous orientez même l'éducation des pitchounes qui nous écoutent.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler politique, sans surprise aujourd'hui, mais avec mon candidat de cœur, celui que j'ai recroisé dans la rue ce matin.
Le connard, je dis bien le connard.
Spécial Roger. Allez, on casse l'antenne. Roger 2022, à tout à l'heure.
Il n'y avait pas Pivoise, il va y avoir Roger. On va vraiment avoir des emmerdes. Et la surprise du chef, c'est la Jupy Masterclass de cinéma. Aujourd'hui, elle vous est offerte par une autrice de talent, Titiou Lecoq. Bonjour Titiou.
Bonjour.
Vous avez choisi de partager avec nos auditeurs un thème dans le cinéma: les baisers dans les films des années 80.
Oh mais t'inquiète, ça, c'est comme un check de la bouche.
Il approuve.
Oui.
Le surveillant général aujourd'hui s'appelle Alex Bizarek. Bonjour.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Je vous présente le reste de l'équipe féminine. Parce que Guillaume et moi, l'égalité, ça va passer très très loin au-dessus de notre tête.
On a essayé pour la parité.
Oui,
ça va,
le papet de chaud. Excusez-nous, on s'est fait la réflexion
c'était
ce matin.
Moment,
on s'est dit, on va attendre l'antenne, comme ça les gens l'entendront. Notre COD à nous, puisqu'elle est notre chroniqueuse obsessionnelle du discours. C'est la Hélia Véron.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Des anglicismes pour se détendre un petit peu.
Très bien. Ensuite, elle est partie en tournée triomphale aux États-Unis. Et mauvaise nouvelle, elle est revenue. Bonjour Marina Chiche.
Non, c'est dur ça Alex. En plus j'ai le cœur brisé aujourd'hui. Donc je vais vous parler de deux étoiles du piano.
Très bien. Ajoutez à cela un journal comme vitrine, des exercices de fouine et un dessin pour devenir soutine. Et vous obtenez la dernière Jupiclass avant la présidence de Marine.
Ah ouais, d'accord.
C'est là où j'ai senti. Je savais que j'étais un froid.
Non, par Jupiclass. Au boulot.
Donc maintenant, on parle sur le jingle, quoi.
C'est possible.
Parce qu'on est outré, Charline.
C'est grave ce qui se passe, Charline.
C'est l'indignation qui a parlé. Ça sent genre les trois dernières émissions avant la fin de l'année. Ça sent les trois dernières émissions avant le Blitzkrieg.
C'est terminé après.
Voilà, je sens bien. Donc, chers auditeurs, soyez compréhensifs avec nous. Et si jamais on parle tous en même temps, vous séparez sur différentes pistes audio. Débrouillez-vous. Voilà. Titiou Lecoq est parmi nous. Merci Titiou d'avoir accepté de chroniquer un thème de film, voilà. Juliette Arnaud avait chroniqué votre livre
sur Balzac, Balzac et moi, voilà. Nous vous avions reçu récemment pour votre ouvrage intitulé « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », édition de l'Iconoclaste. Très gros succès, Titiou Lecoq. Est-ce qu'on peut un peu parler de la vie de ce livre depuis qu'il est sorti ? Est-ce que son succès a fait qu'il a sorti quelques femmes de l'anonymat de l'histoire ? Est-ce qu'on peut décrire la vie d'un livre une fois qu'il est sorti et qu'il a beaucoup de succès ? Est-ce que vous, comme autrice, vous arrivez à palper ça ?
Alors après, je pense qu'il s'inscrivait dans un mouvement général de redécouverte du matrimoine, etc. Donc, donc voilà, c'était déjà là. Après, je vois que je suis beaucoup contactée par les établissements scolaires pour intervenir, ce qui vraiment me fait très plaisir. Mais je ne peux pas aller voir tous les lycées de France pour leur parler des femmes. C'est pas possible. Donc en fait, il faut changer les programmes scolaires. Ce sera plus simple. Ça ira plus vite. Voilà.
C'est vrai. Effectivement.
Et ça, pour l'instant, ça, le livre n'a pas encore eu cet effet-là.
Ouais. Mais ça veut dire que il a un côté pop. Que le public s'en empare, parce que bah, les professeurs, les écoles, c'est le public. Vous avez beaucoup de retours, outre les écoles par quel biais vous avez des retours? Je ne sais pas si c'est par les réseaux, si c'est par...
Oui, je reçois des messages.
De menaces.
Non, pas sur celui-là. Non, c'est incroyable. Mais
non.
Vous êtes tellement c'est décevant.
C'est ça.
Vous voulez qu'on lance un appel? Parce que les gens sont vraiment, ils ont le temps.
Mais je crois qu'Éric Zemmour a votre livre.
Mon livre a été offert à Éric Zemmour.
Oui, j'ai vu la photo.
Ah, par des enfants.
Ouais.
Mais non.
Si.
Et est-ce qu'on a des retours?
J'attends. Ouais, j'attends qu'il me demande une intervention, mais c'est pas encore.
Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. On le rappelle aux éditions de l'Iconoclaste. Télérama a donné aussi carte blanche à 50 auteurs IS et artistes ces dernières semaines. Et vous avez écrit « Je suis en dépression électorale ». C'est toujours le cas.
Alors, à votre avis? Oh, ça va vachement mieux, là. J'ai repris du poil de la bête, je vous raconte pas. Ce deuxième tour, wouhou.
Très bien, mais on sent bien la sincérité dans votre propos. Vous êtes avec nous, vous faites partie de la troupe Titiou, n'hésitez pas à intervenir, bien sûr. N'hésitez pas à rire sur les brèves d'Alex Vizorek.
On en manque parfois. C'est rien pour vous, mais pour lui, c'est tellement ça.
Le mercredi, la petite académie jupitérienne a un siège occupé par une stylisticienne, autant vous dire une créatrice de haute culture linguistique. Voici Laëlia Véron.
Merci Charline. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des anglicismes. Les anglicismes, ce sont les mots qui viennent de l'anglais et qu'on intègre en français en les francisant plus ou moins. Et les anglicismes, très souvent, ça exaspère quand on lit le dernier article de Elle sur le showering ou quand on entend des discours politiques pleins de marketing, de benchmarking, si bien que certains vont quelquefois jusqu'à inventer des origines anglaises pour tous les mots qui ne leur plaisent pas. Par exemple, l'Académie française, ça ne s'invente pas, hein, relayée par le Figaro Langue, avait déclaré sans honte hein, que présentiel était, je cite, un calque maladroit et peu satisfaisant de l'anglais presential, ce qui est tout simplement faux, hein, puisque le mot n'est quasiment pas utilisé en anglais et pas du tout dans ce sens-là. Essayer en anglais, ça marchera pas. Bon, on pourrait disserter sur le fait que les emprunts d'une langue à l'autre, c'est habituel, que beaucoup de mots qui nous viennent de l'anglais viennent d'abord de l'ancien français. C'est étudié par les linguistes Henriette Walter, Jean Prévost et Hugo Blanchet. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se demande comment on peut faire concrètement, si c'est notre but, pour éviter les anglicismes. Et pour ça, pas de secret, il faut proposer un équivalent. Et pour que cet équivalent soit fonctionnel, il y a plusieurs critères. Premier critère, il faut qu'il soit proposé rapidement, parce que si vous suggérez un équivalent alors que l'usage de l'anglicisme s'est déjà implanté, c'est souvent compliqué, hein, même s'il peut y avoir variantes et concurrence. On a un exemple actuellement avec spoiler et divulgâcher. Je sais pas lequel vous dites d'ailleurs, mais voilà, on verra si l'un des deux l'emporte. Deuxième critère, il faut que l'équivalent proposé fasse consensus. Si c'est un mot pour un corps de métier précis, technique, c'est assez facile, mais si on vise l'usage courant, c'est plus difficile. Il faut que le mot soit utilisé par tous les pôles qui à la fois vont entériner et donner un coup de pouce à l'usage, comme l'école, les médias, etc. Et enfin, troisième critère, il faut pouvoir employer cet équivalent. Et pour cela, il ne faut pas juste considérer le mot seul, mais en usage dans des phrases avec des formes différentes. Par exemple, divulgâcher peut fonctionner parce qu'on a aussi divulgâcheur, divulgâchage, divulgâchi. Et ça, ce sont des critères souvent respectés au Québec, par exemple, un endroit où il y a une vraie concurrence entre le français et l'anglais, mais aussi des institutions comme l'Office québécois de la langue française qui sont très réactives. Donc ça, c'est quand ça fonctionne. Et pour rire un peu, on peut peut aussi évoquer quand ça ne fonctionne pas. Les équivalents ratés, qui sont souvent proposés par, devinez qui ?
L'Académie française.
Et le Figaro.
Bah, qui reprend ? Par exemple, l'Académie avait proposé comme équivalent de coming out, jour de courage. Et ça vous
C'est mignon, c'est bien essayé.
On dirait le titre d'un film de Tom Cruise.
Sauf que justement, bah, ça peut provoquer des malentendus, donc ça ne va pas marcher. Mais mon préféré, c'est leur proposition pour traduire follower. Vous la connaissez ? Ils avaient proposé, attention, plusieurs, et aucun ne marche, hein, acolyte des illustres. Quand même, sérieusement.
Ah, ou quoi, acolyte,
acolyte des illustres.
Ah ouais, quand même.
Ah, c'est sérieux.
C'est pratique en plus.
Ah, ouais. c'est rapide, c'est court comme mot. Ou disciple, partisan, admirateur, servant, fidèle. Ce qui prouve qu'ils ne comprennent rien, ni à la linguistique, ni à Twitter. Parce que, par exemple, je ne suis pas sûre que tous les gens qui traitent Guillaume de gauchias, qui le suivent sur Twitter pour l'insulter, soient de fidèles, acolytes, des illustres, etc. Bon, et pour finir, hein, après ces exemples réussis, ces exemples ratés, il faut aussi dire que quelquefois, trouver des équivalents en français ne va pas régler le problème. Parce qu'un certain langage de management agile, très anglicisé, même si vous le francisez, il restera obscur puisque l'enjeu, c'est justement de ne pas être compris, voire de ne pas faire sens. C'est peut-être le principe du bullshit.
Là, il y a Véron, merci pour cette démonstration. En France, comment vous appelez les survêtements de sport ?
Jogging.
Ah voilà. Eh ben, par exemple, en Belgique, on dit un training.
Un training. Ah ouais.
Comme quoi, l'implantation des anglicismes se fait différemment d'un côté ou de l'autre de la frontière.
Et puis les mots ing, d'ailleurs, on peut jouer à faire plein de mots qui sont pas anglais, genre parking, hein, qui n'est pas vrai, qui est un mot qui anglicisé, mais qui n'est pas utilisé comme
smoking
tel en anglais.
Aussi.
Smoking. Et moi, j'ai paraît-il du mal à dire camping. je savais que j'allais vous faire rire.
C'est encore un camping.
Elle a eu vite camping.
Quand je ne sais pas quoi dire pour faire rire, je dis camping et tout le monde rigole.
Ça marche à chaque fois.
C'est tellement facile. Je vous donne tous mes trucs. Hein. Ça va bientôt s'user tout ça. À 17h19 sur France Inter. Les temps sont sous ça, les francs. Comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mirmidou, d'un grand bichou. D'un truc en plastique, en caoutchouc. Une petite chose pour faire chouchou. Et qui flambe. Dans ce par Jupiclas. Alex, est-ce qu'on ferait un petit journal ?
C'est parti, je suis au taquet.
Mes chers compatriotes,
Français, Français,
voici qu'approche l'heure de votre décision.
Nous sommes deux candidats à égalité.
C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous, l'homme du passif.
Le journal de presque 17h17.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Décidément, vous êtes fâchés avec les chiffres.
Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Et on commence par les titres.
Oui, on l'attendait tous depuis une semaine, c'est aujourd'hui.
Et oui, l'affrontement entre deux cadors, celui qui remet son titre en jeu face à l'outsider.
Et oui, c'est ce soir le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Non, c'était la flèche wallonne entre Julien Alaphilippe et Tadej Pogacar. C'était fou. Mais, et c'est un troisième qui a gagné. Ben oui, si.
Mais non.
Mais quoi?
Mais non.
C'est quoi?
Mais ce soir aura lieu le grand débat du second tour entre Marine Le Pen. Un débat où tous les thèmes qui préoccupent les Français seront abordés en profondeur.
Faut pas rêver, hein.
Bah non, dites pas ça, Alex. Ce débat abordera vraiment des thèmes essentiels.
Non, je disais ça parce que sur la 1 et sur la 2, il y a le débat, mais sur la 3, il y a Faut pas rêver. Et c'est une spéciale Franche-Comté. Et c'est une émission qui parlera sans doute de mieux de la France ce soir. Ou là, je regarde celle-là, quoi.
Est-ce qu'il y aura des brèves quand même?
Faut pas rêver, il y aura des brèves. Et donc, on va commencer le fameux débat. Alors.
Oui, qui devrait durer autour de 2h30.
Voilà, 2h30 en temps réel et 5 ans en temps ressenti.
Emmanuel Macron, qui n'a pas pu se soustraire à ses obligations de chef d'État, a donc présidé ce matin le Conseil des ministres.
Et oui, en même temps, pour se préparer à affronter une personne d'extrême droite, quoi de mieux que s'entraîner avec Gérald Darmanin, qui se parie parfait.
Dans le reste de la politique, Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de l'élire Premier ministre.
Non, mais c'est comme si nous, à la Coupe du Monde 2018, on avait dit « Allez, on est champion du monde de la possession ». On dit ça.
Eh ben, pourquoi pas.
Eh ben, on dit ça.
Non, mais lui, il a une chance de gagner quand même.
Oh là là.
Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, souhaite que cela arrive à l'occasion des législatives.
Eh oui. Eh ben, ce serait pas mal parce que ça ferait une belle économie de budget pour l'État puisqu'il pourrait former un gouvernement en nommant ministre tous ses hologrammes.
Le Conseil national du Parti socialiste.
Oui.
Je pourrais m'arrêter là, c'est déjà pas mal.
Oh non, vous arrêtez pas parce qu'il y a plus de rôle derrière.
Le Conseil national du PS a adopté une résolution proposant de discuter avec l'ensemble des forces de gauche.
À 10 jours. Ça s'est joué à rien. Ils ont pas peur de se foutre de notre gueule. Alors écoutez, avec un peu de recul, j'ai failli m'étouffer ce matin pendant mon café. Journal de 8h, le porte-parole du PS. Que j'ai découvert, hein, Pierre Jouvet, quelqu'un. Non, ah, bah, non, moi non plus. C'est pas, ils ont pris le dernier qui passait. Ils ont dit, tu portes la parole, allez, tu portes la parole. Et c'est émouvant de justesse.
Je suis certain que les voies du dialogue et les voies du rassemblement, elles sont possibles parce que notre intérêt, il n'est pas dans l'intérêt personnel des uns ou des autres ou des intérêts de parti, il est dans l'intérêt des Françaises et des Français. La gauche, c'est d'abord des convergences.
La gauche,
ah oui,
c'est d'abord des convergences. Et ça pourrait vraiment être le titre de la campagne électorale. Voilà, la force du Parti Socialiste, la lucidité et le recul sur lui-même.
Heureusement que dans le mot, il y a vergence. Ça sauve vraiment tout. Dernière info sur le scrutin. Ouais. Selon l'Observatoire international des prisons, près de 500 votes par correspondance en centre pénitentiaire n'ont pas été pris en compte lors du premier tour.
Et oui, et Patrick Balkany aurait déclaré... Et je suppose que vous n'avez pas retrouvé mon chèque de soutien, Valérie Pécresse. Non plus.
Une autre étude amusante publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships.
Ok. Je voulais laisser ça, je sentais que c'était pour vous.
Je sentais aussi. Les hommes disent généralement je t'aime une semaine avant les femmes dans une relation sérieuse.
Eh oui, et je confirme. Et une semaine après, quand c'est leur tour, eh ben en général, elles ne me répondent plus au téléphone. Et ça, j'étais bien déçu.
Fait très intéressant aussi, ils sont plus enclins à prendre cette initiative avant de faire l'amour, ce qui laisse deviner un certain, on dirait, utilitarisme de leur part.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'équivalent du vote utile.
Exactement. Qui ne nous ménage pas du vote précoce. Oui,
c'est pourquoi je...
Ce qu'on appelle un plébiscite.
Ça pourrait durer longtemps.
Titou Lecoq va s'en aller. Je pense qu'il va faire un peu une rediff, je pense, sur la chronique.
Pardon, je m'égare, mais il fait chaud dans ce studio. Tennis, les joueurs russes seront interdits de participation au célèbre tournoi de Wimbledon.
Eh oui, est-ce qui fera qu'on aura autant de chances de voir un russe remporter Wimbledon qu'un français cette année?
Et enfin, les brèves.
Et bien sûr, les brèves. Des chercheurs anglais vont envoyer un message aux extraterrestres pour nous aider à sauver le climat sur Terre. Et c'est fou. On en est à un stade où, en termes de sauvetage climatique, on fait plus confiance aux extraterrestres qu'à Yannick Jadot. C'est fascinant.
Et la dernière,
aux États-Unis, il met sa grand-mère vivante en congélateur.
Quoi ?
Ou ce qu'on appelle le gel des retraites.
C'est mignon,
bah, je trouve.
Comme ça, ça évite la canicule, oui.
Bien sûr.
Merci Alex Vizorek pour ces petits conseils de service public.
C'est pas de moi.
Essayez-le chez vous.
Faites face à chez vous.
Service public toujours, abordons un petit peu les lettres. Juliette Arnaud, Mafalda, vous poursuivez la lecture d'un album, offre l'image d'une petite fille sage. Vous la définissiez comme cela mercredi dernier. Carré bien coupé, frange et nœud dans les cheveux, socket dans les petites chaussures vernies.
Dans les babies.
Les babies, mais ce serait faire fi d'un cheveu un poil hirsute et de sa capacité à aider les petits et les grands de 2022 à accueillir leurs angoisses, vous nous disiez.
Oui. Et parmi tous les comic strips contenus dans cet album là qui vient de sortir, Féminin Singulier, il y en a un qui m'assomme plus qu'il ne me fait rire. La première case, c'est Mafalda qui fait des pâtés de sable à la plage. La deuxième case, elle s'applique à dessiner sur chaque pâté un visage avec un bâton. Donc deux trous pour les yeux, une encoche pour le nez, un demi-cercle pour que chaque pâté rayonne d'un grand sourire. Troisième et dernière case, la maman de Mafalda en maillot de bain également rentre dans la case et demande à sa fille ce qu'elle fait. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais envie de demander à Mafalda quel était son projet, vu qu'elle est allongée sur le dos au milieu des pâtés visages souriants. Et Mafalda peinarde de répondre « Rien ». Je voulais savoir ce qu'on ressent quand on a une fille sexy. Je ris, je m'étrangle un peu. Parce que je suis assommée par la capacité de Kino à piger une petite fille de 100 ans, les années 60, et le mien. Et tous les miens, hein, finalement, des années 70 à 2020. Assommée aussi par le pragmatisme de Mafalda, la môme se pose une question. Non seulement elle trouve la réponse, mais également une solution. Et en général, la solution met les adultes mal à l'aise. Tant pis pour les adultes, bien fait pour les adultes, ils n'avaient qu'à lui fournir une réponse convenable. Mafalda trimballe avec elle une inquiétude perpétuelle. Le monde, en général, l'inquiète. La guerre, la domination, des femmes notamment, les inégalités, la pauvreté, ça vous rappelle un truc ? Et comme la jeunesse d'aujourd'hui, Mafalda dit aux adultes « How dare you ?» Petite, la vérité, c'est que l'inquiétude de Mafalda m'inquiétait. Alors oui, elle me rappelait certes mon cher petit Nicolas pour le rire et puis Snoopy avec son goût pour les réflexions métaphysiques, interroger le ciel et lui demander des comptes. Mais les angoisses des années 60 en Argentine, en fait, elles faisaient écho aux miennes. Moi qui suis une enfant des années de plomb qui n'en finissait pas de sévir. Et puis, allez maintenant, je peux bien le dire, il y a prescription. Ce que j'aimais le plus du plus chez Mafalda, c'était sa perfidie, sa cruauté, notamment avec sa maman. Sa pauvre maman. Mafalda, elle veut être présidente quand elle sera grande. Ou interprète à l'ONU, au pire, pour contribuer à la paix dans le monde. Et elle fera un peu de judo au cas où. Oui, Mafalda, comme juste mentionné, elle est pragmatique. Tandis que la maman de Mafalda, elle a arrêté ses études pour s'occuper d'elle et faire le difficile métier de femme au foyer, dans un foyer de la classe moyenne où on court un peu après le fric. Mafalda, que Kino avait dessinée au départ pour être la mascotte d'une campagne publicitaire d'électroménager. Ça n'a pas existé, heureusement, la campagne d'électroménager, parce que quoi de mieux qu'une femme pour faire le ménage ? Mafalda est dépitée par sa mère et s'emploie à intervalles réguliers à le lui rappeler. Genre, elle voit sa mère en plein ménage, la pauvre maman, elle fait trop de la peine. Elle a un truc dans les cheveux pour se tenir les cheveux. Elle est épuisée, elle sue, elle a les cheveux droits sur la tête. Et Mafalda, elle arrive et elle lui balance innocemment, car les enfants sont innocents, c'est bien connu. Maman, qu'est-ce que t'aimerais faire si tu vivais ? Ou encore Mafalda, elle joue avec sa meilleure copse, Susanita, celle qui ne rêve que de mariage et de romans photo. Alors les deux minotes sont déguisées en madame, et la maman de Mafalda, elle les écoute de loin d'une oreille un peu attendrie. Susanita dit « On jouerait avec deux dames comme ta mère et la mienne ». Mafalda, elle fait « Ok, qui dit la première imbécilité ?» Tête de la mère et fin du conte sur l'innocence crétine des enfants. Et ça, voyez-vous, eh ben c'est super en vrai, parce que la perfidie, c'est un moyen de défense quand on est petit et qu'on pressent qu'il va falloir vivre dans le monde dans lequel nos parents chéris et aimants ont jugé utile de nous pondre. Alors, armez vos enfants contre vous-même, offrez-leur Mafalda. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Dites-moi, donc Mafalda, au départ, qui ne l'a dessinée, c'était à vocation publicitaire pour l'électroménager.
Oui, et la campagne n'a pas eu lieu. Et lui, il a pris sa petite fille et il l'a mise à la poubelle, en gros.
D'accord.
Et sa femme, merci madame, un jour lui a dit... Tu sais, cette petite fille, c'est une vraie bonne idée, tu devrais la ressortir. Donc en fait, Mafalda a vraiment, certes, un papa Kino, mais elle a une maman aussi.
Ok. Donc les Argentins avaient Mafalda, nous on avait la mère Denis. Ça dit bien. Bah oui, évidemment, le gap culturel. Merci Juliette. Titu Lecoq est avec nous. Vous pourrez écouter sa Jupi Masterclass de cinéma à la fin de l'émission. Titu, après le succès de votre dernier livre,
j'ai l'impression que vous faites monter la pression.
Il y a un chrono, il y a un truc. Mais c'est pour atteindre l'excellence, Titu. Si l'excellence vous embête, je vais studio.
Moi, je vais y aller du coup.
Mais bah, le succès de votre dernier livre, vous n'allez pas vous arrêter dans cette lancée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou pas?
Sur le livre suivant?
Je sais pas, il y a des choses en préparation, j'imagine. Vous n'êtes pas obligé. Hein,
c'est bien. Il faut que je, surtout qu'il sort bientôt. Il faut que je finisse de l'écrire vite quand même.
Projetez-vous. C'est bien de se projeter en ce moment.
Non, c'est un sujet sur lequel j'avais déjà travaillé pour un podcast. C'est sur les femmes, le couple et l'argent.
Ah.
Je suis sûre que je peux trouver des vignettes de Mafalda sur ce sujet.
Oui, parce que l'argent n'arrête pas d'être évoqué et par Mafalda et par ses copains qui sont hyper inquiets en fait.
On a dû lire un de vos articles à ce sujet dans Slate, au moment où vous écriviez dans Slate.
Tout à fait.
Là-dessus, et qu'on avait sans doute traité dans l'émission d'ailleurs. 10 ans de chronique sur Slate. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une chronique radio ou pas?
Non, est-ce que Augustin Trapenard ça compte?
Ah oui,
il demande la carte blanche. Bien, ouais.
C'est
ça,
on le dit à tous les artistes. Et les auteurs, entraînez-vous chez Augustin avec la carte blanche. Venez dans par Jupiter. Petit truc comme ça, petite astuce que je vous donne. Titu, restez avec nous. Et puis, elle nous revient d'une tournée de 3 semaines aux États-Unis, on l'a dit. On vous a suivi avec intérêt sur votre compte Instagram, Marina Chiche. Ça, c'est pour le côté joyeux des choses, mais la vie, c'est pas du gâteau. Et vous nous proposez un hommage aujourd'hui.
Oui, il est des musiciens rares qui vous font l'espace d'un concert accéder à d'autres mondes, qui vous rendent la vie plus supportable et vous donnent foi en l'humanité. Quand ils partent, ils laissent un vide terrible, mais aussi une trace indélébile et un sentiment profond de gratitude dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de croiser leur chemin. Aujourd'hui, ils pleurent dans mon cœur. Le monde de la musique classique est en deuil. Après le compositeur Harrison Birtwistle, ce sont 2 immenses pianistes qui, à 1 jour d'intervalle, ont rejoint le cercle des poètes musiciens disparus. Le pianiste roumain Radu Lupu, à 76 ans, et le pianiste franco-américain Nicolas Angelisch, à seulement 51 ans, beaucoup trop tôt et dans une synchronicité accablante qui nous laisse désemparés. On dit que ce qui est plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Alors, souvenons-nous. Écoutez encore et encore Radu dans ce 3e impromptu de Schubert. Oui, on l'appelait par son prénom tellement il était unique. Radu Lupu, c'était déjà une légende de son vivant. Il jouait souvent cette œuvre en bis, après un concerto ou un récital. D'un pas lent, il rejoignait le piano, se calait dans sa chaise, portait le regard au loin et posait les mains sur le clavier. Le temps se suspendait, l'air s'épaississait. Et à chaque fois, on se prenait à essuyer des larmes sur un sourire formé devant tant de beauté. Touché de recevoir en plein cœur des confidences pudiques d'une infinie tendresse. Immense interprète de Schubert, comme Nicolas Angelisch d'ailleurs. Ces deux pianistes avaient beaucoup de points communs. Des êtres d'une intelligence rare, si singuliers, capables de créer des moments d'éternité avec une sensibilité à fleur de peau et un contrôle magistral de l'instrument. À la fin de sa carrière, Radu Lupu ressemblait à un vieux sage, avec sa barbe à la Johannes Brahms, un de ses compositeurs fétiches. Nicolas Angelisch, avec son visage enfantin, avait le physique d'un géant aux grandes pattes. Il se déplaçait parmi les mortels comme si ses ailes l'empêchaient de marcher. Oui, un être mi-ange, mi-ours. Les deux étaient capables d'une palette sonore incroyable, allant du pianissimo chuchoté à l'extrême aux confins du silence, jusqu'à une plénitude sonore quasi orchestrale. Tous les deux étaient sidérants d'humilité, toujours en quête de perfection, rongés de trac avant d'entrer sur scène. Peut-être parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'accueillir l'inspiration. Et puis la musique se déployait et ils agençaient les sons, ou plutôt les relations entre les sons. Avec eux, l'interprétation était bien un acte de recréation. D'ailleurs, si vous alliez les écouter 2 soirs de suite dans le même programme, c'était 2 expériences totalement différentes. À la sortie de scène, je me souviens de Nicolas qui disait avec son accent américain
Je suis fatiguée. Ou encore de Radou, qui entre un verre de vin et une blague racontée en russe, repassait tel ou tel passage mentalement, en cherchant encore sur la table du restaurant à ressentir tel ou tel enchaînement d'accords, comme un joueur d'échecs qui cherche une combinaison encore plus subtile. Je me souviens aussi d'avoir été médusée lors de leur concert, la respiration ralentie au maximum, presque coupée, la mâchoire par terre, et mes lentilles qui se figeaient sur mes yeux restés grands ouverts. Le temps devenait espace, et on se sentait consolé d'un mal dont on ne savait pas que l'on devait être guéri. Oui, l'espace d'une sonate de Schubert, d'une cadence de Beethoven, d'une fantaisie de Schumann, ou d'un dernier opus de Brahms, on entrevoyait un autre monde. Le deuxième intermezzo de l'opus 118 de Johannes Brahms par Nicolas Angelisch. Avant les prochains concerts, je jetterai un regard vers le ciel pour y voir briller deux nouvelles étoiles fraîchement apparues. Avec Radou Loupou et Nicolas Angelisch, s'il y a un piano au paradis, les anges ont bien de la chance.
Marina Chiche, merci. On vous a senti très émue pour votre chronique. Merci. Alors oui, il faut que je dise, vous jouez samedi et dimanche. Oui. Au, remettez-vous, parce que samedi et dimanche, Festival Beethoven de Beaune. Oui. Alors on se reprend, on y va, la vie continue,
oui,
Marina.
Ben penserait,
mais bien sûr. Alors vous savez que c'est la douche écossaise, cette émission. Donc Alex, je vais vous laisser dire qui est autour de la table et ce qui suit, parce que là, il faut, faut mouiller un peu la
tête. On a entendu Marina Chiche qui nous a serré le cœur, on a entendu Leïla Véron qui fut outstanding, hein, dans l'anglicisme. Et Juliette Arnaud qui, on l'a tous compris, nous a fait petite thérapie en nous parlant de sa propre mère, hein, à travers un personnage de la littérature. Bien, oui, on a senti que c'était très profond. On l'embrasse d'ailleurs. Hein, parce que, à mon avis, elle doit se dire qu'est-ce que je dois me reprocher.
C'est du mansplaining, c'est un nom d'expliquer aux femmes.
Je l'embrasse.
La psychothérapie avec la redevance des gens, ça va bien deux minutes.
Si, je peux, aider, si je peux aider, oui, vous voyez que certes, si l'histoire a pu effacer des femmes par Jupiter, n'a pas effacé ses chroniqueuses Titiou Lecoq, et vous serez tout à l'heure la chroniqueuse cinéma. J'ai un peu de promo pour le bouquin. Bim, hop,
ouais,
un cadeau s'est offert par la maison. Mais avant ça, je suis désolé. parce que c'est moi donc. C'est moi un spécial donc. Mansplaining, mais de pas de n'importe quel man.
Oui, oui, oui. Allez, bon, les amis, l'heure est grave. Hein. L'échéance se rapproche. On va bientôt savoir si Radio France va être privatisée ou non. Si Marina va devoir réviser tout Wagner. Si Laëlia va devoir prêter allégeance à Finkielkraut. Bref, ça pue un petit peu. On le sait d'ailleurs que ça pue, parce qu'on voit Manuel Valls revenir dans le débat public. Manuel Valls, c'est comme la gastro, en fait. Quand il est là, ça sent pas bon. On parle même d'un retour de Nathalie Kosciusko-Morizet dans le gouvernement Macron.
Oh, chic !
Ça excite beaucoup, Charline.
J'adore.
Le Nouveau Monde, ça fait envie. Éric Woerth est déjà sur le coup. Vivement Brice Hortefeux et Nadine Morano. Le mec qui est tombé dans le coma il y a 15 ans, il se réveille aujourd'hui, il fait... Ah, je fais une petite sieste, c'est déjà sympa. Alors, moi, je suis désolé, je vais briser ma neutralité légendaire, mais je pense qu'il faut refaire l'élection pour élire le meilleur d'entre nous. Ça fait un mois que je ne l'avais pas vu. Partout où je vais en France, on me demande de ses nouvelles. Aujourd'hui, je pense que seul lui peut sauver la France. Je l'ai recroisé ce matin, vous avez compris de qui il s'agissait. C'est Roger. Qu'est-ce qu'il ferait s'il était président, Roger ?
Je mettrais les gens en vacances toute l'année et leur donner 3000 euros par mois.
Ah bah c'est pas mal ça.
Bah écoute, bah, je fais comme les autres, je raconte des conneries. Ils racontent des conneries, les gens les croient. Moi c'est pas de ma faute, les gens sont cons, de plus en plus cons.
Est-ce que c'est vrai que les gens sont de plus en plus cons?
Mais ils écoutent que des cons, la télévision écoute des hommes politiques, de façon ils nous enculent tous les jours.
Alors attends, Roger, ça faisait un mois que je l'avais pas vu, donc forcément il a des choses à raconter, il était vraiment très très en forme. Très en forme avec des idées pour la France, faire des économies, par exemple dans les départements.
Le préfet, à quoi que ça sert?
Le préfet?
Bah oui, je sais pas à quoi qu'il sert, ça sert à rien là.
Bah alors on supprime les préfets alors.
Bah vous, il y a pour moi à supprimer. Hein. Un préfet, à quoi que ça sert, c'est pour se prendre les couilles?
Non, alors, attendez, Roger, attention. Bah oui, bah, il faut être présidentiable un peu, Roger. Non. Alors remarque, moi je paierais pour voir Roger comme invité dans la matinale. Hein, débat face à Dominique Seux, moi je mets un billet dessus.
Donnez-moi l'adresse, je l'invite dans une de mes chroniques.
Attention, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Alors, attendez, avant, parlons des grands enjeux planétaires, parlons écologie et solutions, surtout avec Roger.
Ben, il paraît que le nucléaire, c'est moins polluant que les éoliennes.
Bon, alors, première mesure, qu'est-ce qu'il faudra faire au niveau écolo, là?
Ben, les écolos, les foutent mettre dans la Seine.
Mettre les écolos dans la Seine?
Mettre dans la Seine, de façon, ils sont sales comme des peignes. Oui, oui.
Oui, alors, bon, ça, c'est concret. Les écolos sont sales comme des peignes. Alors, le problème, c'est que jeter les gens sales dans la Seine, ça va polluer la Seine. Donc, il y a un petit ratio bénéfice-risque, je dirais, à faire avant. Mais l'idée est à noter quand même. Allez, passons à l'économie et aux solutions contre le chômage.
Bon, on enlève les aides. Comme un con comme moi, comment j'ai donné pour ça? Les gens, ils foutent rien. Donc, à supprimer l'argent pour le chômage, j'en suis.
Et alors, il va y avoir plein de gens qui dorment dans la rue, il y aura plein de SDF.
Bon, ça, ils veulent bien, ils se démerdent. Ils ont qu'à aller travailler. Est-ce que les RDF, ils ont eu le Covid, là?
Est-ce que les SDF ont eu le Covid?
Oui, aucun.
D'où sortent ces statistiques?
On les voit toujours dans la rue, c'est qu'ils sont pas malades.
Ah ben, Eh ben, attendez, reconsidérons un petit peu tout ça. On n'a jamais vu un SDF s'isoler dans son appartement. Ils sont toujours dans la rue, donc ils ne sont pas malades, vous voyez. Là, on a vu vraiment l'aspect social du programme de Roger et son aspect santé d'un seul coup. Hein, mais ça, bon, ça sentait qu'il n'était pas hyper bien préparé là-dessus. Alors, parlons d'un sujet qu'il maîtrise quand même mieux, sa zone de confort, bien évidemment, l'immigration et les immigrés.
Il y en a trop en France. On ne tenait plus chez nous. Je vais dire ce que...
Il y a trop de quoi?
D'étrangers, certains. Mais je vais dire, comme Zemmour, il a dit, il y a 5 millions d'étrangers en France, d'Algériens.
5 millions d'Algériens en France?
Oui.
Mais d'où sort ce chiffre?
Ah ben je sais pas, c'est lui, c'est pas moi qui le dis.
Ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont pas juste complètement faux?
Je pense qu'il y a du vrai quand même.
Je pense aussi, il doit y avoir du... Il y a du vrai. Peut-être pas 5 millions, mais il y a du vrai. En tout cas, c'est un nombre. Voilà, on sait que c'est un nombre. Ça, c'est vraiment une technique de rhétorique que je vous donne. Vous dites un chiffre au pif, et après vous dites, oui, mais il y a du vrai. Hein, d'ailleurs, je donne ce conseil aux 4 milliards de gens qui nous écoutent en ce moment. On sait peut-être pas exactement le chiffre, mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Et dans Roger, il y a du vrai, notamment dans son programme sur l'égalité femmes-hommes. Parce que ça va vous intéresser, Tissou. Mais Roger, il est féministe.
Mais les femmes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les hommes pareil. Même les hommes, ils ont le droit de donner un coup de main. Moi, je fais la vaisselle tous les jours. Ça me dérange pas du tout.
Et vous êtes woke?
Pourquoi pas, dans un sens. Les femmes, quand même, malgré tout, elles ont quand même des bonnes idées. Il faut pas raconter trop de conneries, quand même.
Qu'est-ce qu'elles ont comme bonnes idées?
Mettons, aménager, tout s'en suit. Des fois, ils ont quand même des bonnes idées.
Ça veut dire quoi, aménager? Décorer?
Le décor de la maison, mettre les meubles, faire les séparations, tout s'en suit.
Ça, elles sont fortes pour ça?
Oui.
Bah, faut connaître, bah non, mais voilà. Bah, c'est du féminisme, mais au niveau de Roger, mais il progresse quand même.
Les femmes.
Et vous êtes forte pour décorer. Valérie Damineau, première ministre, peut-être, du gouvernement Roger, c'est jouable. Mais avant tout, évidemment, faudra réindustrialiser.
Tout ça, il n'y a plus de boulot en France, puis toutes les usines sont parties à l'étranger, écoute. Moi, je suis industriel, je vais partir à l'étranger. Tu payes le personnel 4 fois moins cher et travaille davantage.
M'engueulez pas, mon geste.
Mais bah, c'est le retour de Mitterrand.
Voilà, bon, allez. Bon, faudrait organiser un débat entre Roger et Mitterrand directement. Jamais ce soit possible, au moins dans un monde parallèle. En attendant, le plus fou dans tout ça, en écoutant Roger, c'est de se dire que si ça se trouve, par rapport aux deux choix qu'on a là actuellement, Roger, ça serait peut-être même pas pire que ce qui nous attend.
J'ai un doute. Merci Guillaume Meurice. Il faut le produire en spectacle, ce Roger. Ah on appuie sur play. C'est...
Oui.
Beaucoup de rush. Vous foutez pas
des masses, hein,
finalement. Beaucoup de rush. Vous appuyez play sur Roger.
Ah bah Roger, bon. c'est pas très compliqué.
Pauvre, il est traumatisé par Mitterrand, ça on l'a bien compris.
Ouais.
Merci Guillaume Meurice. Et dire que vous revenez demain, donc on n'est pas au bout de nos peines avant le second tour. Est-ce qu'on passerait aux exercices, puisqu'on est mercredi, Alex Vizorek.
Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui a demandé aux Français de l'élire Premier ministre. Ça m'a fait ma journée hier. En mettant donc en place, il y aura cohabitation, quoi qu'il se passe ce week-end. L'occasion de revenir sur les cohabitations célèbres dans ce pays, lesquelles ont existé. Réponse A, François Mitterrand a cohabité avec Jacques Chirac. Réponse B, Emmanuel Macron a cohabité avec Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Réponse C, Nicolas Sarkozy va cohabiter avec Patrick Balkany. Réponse D, François Hollande a cohabité avec Ségolène Royal,
non.
Valérie Trebaïda.
Non, on a compris, Alex. On a compris.
En fait, j'ai pas le nom des autres.
Non, mais... c'est bon. La réponse D était donc rédigée par Roger. Bien compris. Alors, à mon tour. Jean-François Copé a déclaré au sujet de la place de LR dans le paysage politique actuel, je cite du Jean-François Copé, c'est toujours bien.
C'est quand même émouvant.
Nous serons la tranche de jambon dans le sandwich et une tranche de plus en plus fine. Mais qui compose réellement le reste du sandwich? C'est la question que tout le monde se pose depuis. Petit A, la droite, c'est le pain, parce que c'est dur à l'extérieur et tout mou dedans. Je sais, je suis maquée avec Bruno Retailleau.
Oh là là,
Petit B, la gauche, c'est le caviar, car ça rentre même pas dans le sandwich. Petit C, François Bayrou et le cornichon. Même potentiellement celui qu'on n'arrive pas à attraper au fond du pot parce qu'il a glissé sous le petit panier en plastique du bocal. Petit D, reconquête, c'est la tomate car elle glisse souvent et elle finit à côté du sandwich. Et quand on a de la chance, on glisse dessus en marchant dedans du pied gauche. Guillaume.
Oui, je ne sais pas si vous savez, mais ce soir aura lieu le fameux débat entre Emmanuel Macron. C'est ce soir. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais comment les candidats ont-ils préparé ce débat? Réponse A. Emmanuel Macron a appris par cœur les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo. Non, je plaisante. Je n'avais pas. Suivez un petit peu, s'il vous plaît. Réponse B. Marine Le Pen a fait supprimer toutes les bouteilles du minibar de la loge. Réponse C. Marine Le Pen teste ses punchlines sur une doublure d'Emmanuel Macron et qui s'appelle Rio Christophe Barbier. Réponse D, Emmanuel Macron teste ses punchlines sur une doublure de Marine Le Pen et qui s'appelle Rio Gérald Darmanin.
C'est difficile.
C'est pas évident, mais il y a des vraies réponses.
Bien sûr. Et les corrigés sont bien sûr sur la page Facebook de Par Jupiter. On voit bien que vous vous ruez dessus pour savoir quelle est la bonne
évidemment,
réponse.
Évidemment, on voit le trafic. Impressionnant.
Mais bien sûr. Est-ce que vous voulez un titre de la playlist France Inter?
Non, mais je crois qu'on est obligé.
Je me suis dit pourquoi je pose la question.
Vous l'avez senti vous-même.
Mais je sens les auditeurs derrière leur poste qui disent on a soif de découvertes,
qui sont ces gens
de
qui
curiosité.
Écoutent la playlist et qui l'attendent.
C'est ceux qui vont sur la page des réponses.
Les gens se disent nous sommes curieux, la playlist est là pour partager
c'est plein
des
de
artistes.
C'est des gens qui travaillent énormément pour trouver ça.
Wet Leg. C'est le titre du groupe de filles Wet Leg, la playlist France Inter, bien sûr. La Jupi Masterclass de cinéma, c'est un moment de partage. C'est un moment de convivialité. Et aujourd'hui, il vous est offert.
Et concentré.
C'est le meilleur lancement qui n'ait jamais été fait pour une masterclass.
Mais je donne envie d'écouter Titiou Lecoq. C'est vrai. Parce qu'on a envie d'écouter Titiou Lecoq.
Et c'est maintenant.
J'en parle assez peu, Charline, mais je suis une rescapée. Une rescapée d'une des périodes les plus sombres de notre histoire, les années 1980.
Je vois bien.
C'est impossible pour les jeunes de comprendre, mais être une enfant dans les années 80, ça voulait dire être entourée de sexe. Du cul partout. Sur les murs, t'allais à l'école, tu tenais la main de ta mère et tu croisais les affiches de 36-15 Ula ou Demain j'enlève le bas. À la télé, du cul tout le temps. Évidemment, il y avait Stéphane Collaro, dont la simple évocation me donne toujours envie d'avaler une bouteille de Javel. Et il n'était pas une exception. Dans les années 80, on n'aurait pas envisagé de vendre des pots de yaourt sans coller des nichons au premier plan. Toi, t'étais là, à table, avec tes 8 ans, tes chaussettes dépareillées et tes pieds qui touchaient pas le sol. Tu mangeais des raviolis dégueulasses avec tes parents et vous étiez tous les trois scotchés devant l'écran de télé sur lequel s'agitaient des meufs de 20 ans avec une plume dans le cul. Et dans ce climat général de sexe, il y avait les films. Et dans les films, on voyait des gens qui s'embrassaient. Alors évidemment, maintenant, avec le recul, je suis en mesure de nuancer un peu. Il ne s'agissait pas vraiment de deux personnes qui s'embrassaient, mais plutôt d'un mec qui commettait une agression sexuelle. Je me perds des amis. Mais une agression sexuelle romantique, évidemment, sinon ça aurait été absurde. Alors, pour être encore plus précise, pour les enfants des années 80, les scènes de baisers, c'était Harrison Ford en train d'agresser une meuf. Alors oui, ok, c'était pas toujours Harrison Ford, parfois c'était Michael Douglas. Et moi aussi, j'ai absolument adoré Harrison Ford et c'est un peu le problème. Alors pourquoi je parle d'agression? Parce que dans nombre de ces films, non seulement la fille n'a pas consenti, elle ne lui a pas dit « je vous veux, embrassez-moi », mais même pire, elle a plutôt l'air de ne pas pouvoir l'encadrer. Il la saoule et lui, il prend ça pour un signe positif. Ou alors, deuxième hypothèse, il prend ça pour rien du tout, parce qu'il s'en branle. Elle l'excite, il la chope. Et ça, eh ben, c'est le principe d'une agression sexuelle. L'agresseur ne s'interroge pas sur le désir de l'autre, il est le corps désirant. Alors quand j'avais 8 ans, ce n'était pas un problème. Je faisais burk dès que des acteurs s'embrassaient à l'écran et je mimais des bruits de vomi.
C'est bien.
Sauf que quand j'ai eu 12 ans, à force de me farcir ces films, j'ai fini par croire que c'était sexy un mec à qui t'as rien demandé et qui t'attrape par la nuque pour écraser ses lèvres contre les tiennes comme s'il voulait te défoncer les mailles des dents. C'est le schéma érotique que ces films m'ont mis dans le crâne. Et il y avait encore pire. Il y avait la scène hyper classique de la meuf qui est en train de parler comme une grosse relou, parce que les meufs étaient toujours présentées comme des relous dans ces films, et le mec finissait par l'embrasser de force pour la faire taire. Interrupting plus agression sexuelle. Jamais je ne voyais une femme qui embrassait un homme. Jamais je ne voyais deux femmes ou deux hommes qui s'embrassaient. Le romantisme et la sexualité, c'était un homme qui prenait. Pour moi, adolescente, il ne restait plus qu'à attendre qu'un homme m'embrasse sans même savoir s'il me plairait. Alors oui, j'adore ces films des années 80, mais franchement, pas merci Harrison. En direct des années 80, on y est complètement.
Il y avait, c'est vrai qu'il y avait en plus le saxo.
Il y a du saxophone. Ouais. C'est mauvais signe.
Et la meuf
quoi,
qui parlait, qui était chiante.
Ouais, c'est vrai, ça, je vois très bien. Et celle-là où elle parle et il a fait dire comme ça.
Mais vous conseillez
la version Jean Gabin. La version Jean Gabin, c'est deux claques avant de l'embrasser.
Ah oui, non, mais Jean Gabin, je vous rappelle quand même qu'elle lui dit embrasse-moi.
Okay. On va en faire un sujet demain.
Alex a une question.
Du coup, vous conseillez quel Indiana Jones alors? Parce que c'est le principe de la chronique cinéma, il faut qu'on ait envie de regarder un film.
Alors en plus, je les regarde.
Mais oui,
je
pense
évidemment. Bien sûr.
Merci Titu Lecoq, bravo. Je vous propose un dessin qui est un défi. Je sais que vous aimez ça. Parce que vous êtes des winners. Les auditeurs.
Attention. Ah oui, parce que nous.
Oui, non.
Si ce soir, mais vous pouvez participer, okay. Les amis. Ouais, vous pouvez participer. Vous allez voir. Si ce soir, tu regardes le débat de l'entre-deux-tours et que tu tiens jusqu'au bout, parce que ça dure 2h30 et que ça commence à 21h. Rédige un petit billet humoristique de 2 minutes 15 sur le débat et envoie-le-moi avant demain matin, 7h50, à papejupiter@... Il n'y a pas de raison.
Non, mais vous avez absolument raison.
papejupiter@radiofrance.com, parce que moi, perso, je ne suis pas sûre de tenir jusqu'au bout. J'ai un petit devoir à rendre demain matin. Et ce n'est pas tous les jours facile, je dirais.
Le meilleur sera lu à l'antenne. Voilà.
Merci les amis, à demain.
Bah, demain, vous avez une grosse journée, Charline.
Oui.
Est-ce que vous ne seriez pas en rencontre sur le thème de l'humour politique demain, au MK2 à 20h?
Allez.
Guillaume Meurice, je serai vous, j'irai, parce qu'il y a d'autres choses à apprendre. C'est MK2 Bibliothèque à Paris. Réservation sur le site de MK2. Voilà.
Merci, slash événement, vous oubliez de dire.
Soyez précis, à mon avis, vous êtes en tête de site.
Sinon, on ne voit pas l'adresse.
Les gens vont revenir massivement, il n'y aura même plus de passe.
À demain, donc, et nous recevrons l'actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri.
Le Québec, c'est le seul endroit du monde où on peut être chaud en hiver et puis gelé en été.